de Jacques Leclerc, prêtre d'accueil à Notre-Dame de Paris, après mission au Cameroun, Madagascar, Tanzanie, Salvador, avec Médecins du Monde, écrivain, auteur de Debout sur le Soleil, qui va traiter du sujet Que faire de soi.
Bonsoir. Vraiment, oui, je vous admire. Je vous admire parce que être venu par le temps qu'il fait, je suis très très impressionné, je ne vous le cache pas. Parce que si vous êtes venu ce soir en dépit du temps, c'est que vous attendez quelque chose et je serais vraiment très désolé de vous décevoir. Bon, je m'appelle Jacques Leclerc. À la vérité, vous savez, tout mon passé est africain. Je me suis engagé dans une congrégation missionnaire dès ma jeunesse. J'ai passé 10 ans au Sud Cameroun, notamment 10 ans au Sud Cameroun. Et puis, au bout de 10 ans, j'ai attrapé une amyliase. Je suis entré en France, on m'a soigné, les hôpitaux. Je suis reparti en Afrique. J'ai attrapé une nouvelle amybiase. Alors, s'il y a des médecins parmi vous, ils doivent comprendre qu'une amybiase, c'est déjà très, très inconfortable. Mais ça ne me permet plus de séjourner en Afrique. Néanmoins, l'expérience africaine, pour moi, m'a percuté pour toujours et j'ai découvert là tout un sens de l'homme qui m'a profondément bouleversé. Et c'était une époque difficile où l'Afrique commençait à surgir, à se mettre debout, politiquement, religieusement. Et je dois vous avouer que j'étais tellement effaré par le prestige inouï du blanc occidental, par une certaine conception de la mission qui, à l'époque, je vous parle des années 50-60, était encore un peu l'exportation de la foi occidentale, que dans les derniers temps de mon séjour là-bas en Afrique, avec l'accord de mon évêque, un évêque noir, tout jeune évêque noir, j'avais accepté, j'avais même été volontaire pour être le second, d'abord le quatrième vicaire à la cathédrale de Yaoundé. Et tous les autres étaient des Africains. Et il était bien entendu que je n'étais pas le blanc conseiller technique pour piloter toute l'équipe, mais j'étais vraiment le quatrième petit vicaire. J'ai appris alors à voir l'Afrique avec les yeux d'un Africain. Puis je suis rentré en France, comme je vous le disais, pour vous soigner. Et quand je suis reparti, j'étais en brousse dans une mission extrêmement pauvre. Et mon curé était un prêtre africain. Donc j'arrête là parce que si on démarre sur l'Afrique, toute la soirée va passer sur l'Afrique. C'est vrai que j'y ai laissé mon cœur, vous savez. J'y retourne encore pour de grandes tournées parce que j'ai toujours envie de continuer à parler, à témoigner de ce que pourrait être le dialogue nord-sud. J'avoue que c'est très difficile d'ouvrir les yeux et d'éveiller les consciences dans notre Occident repu et nanti. Alors j'y retourne dans de grandes tournées pour regarder encore qui est l'Afrique et tenter de la révéler par ici, de ce côté de la mer. C'est ainsi qu'il y a 2 ans, je suis allé dans l'océan Indien, dans l'île Maurice, Madagascar. Et puis j'ai visité la Tanzanie, j'ai eu cette chance énorme de rencontrer pendant 1 heure de tête à tête, de cœur à cœur, le président Nyerere. Et j'ai découvert un grand prophète. J'emploie les mots dans leur sens le plus fort. J'ai vu un regard sur la Tanzanie, j'ai vu un regard sur l'Afrique, j'ai vu un regard sur le tiers-monde, j'ai vu un regard sur l'Occident. et surtout un regard sur ce que pourrait être le dialogue Nord-Sud si nous étions tous des hommes de relations et de cœur. J'ai appris auprès de lui ce que je croyais savoir. J'ai fait aussi d'autres missions pendant un an, je me rappelle, surtout après mon premier retour d'Afrique, j'étais extrêmement fatigué, je ne pouvais pas faire grand-chose, et néanmoins, le père Talva, qui a fondé l'œuvre du Nid à Paris pour les prostituées, m'avait accepté dans son équipe, et mon boulot, c'était de marcher dans Pigalle entre 10h du soir et 1h du matin, et rencontrer les filles. Tu viens, chérie? Tu viens faire l'amour. Et on parlait, on fumait une cigarette, on allait boire un pot. Mon souci n'était pas de les convertir, mon souci c'était d'être l'ami, celui qu'on reconnaît à son pas. Et pendant quelques instants, être reconnu comme une femme à part entière. Quelqu'un qui saurait lire au-delà des phares et des accoutrements, la femme. J'ai participé tout récemment, enfin cette année, à une mission au Salvador avec le docteur Kouchner et ses compagnons médecins du monde. Vous en avez peut-être entendu parler, il s'agissait de ce fameux avion pour le Salvador, 40 tonnes de médicaments. Et j'ai fait partie de la mission exploratoire qui devait conclure un protocole d'accord pour l'atterrissage de cet avion à San Salvador. Là, pendant 15 jours, j'ai connu vraiment la peur et l'horreur et l'atrocité. Naturellement, je suis revenu très bouleversé, très percuté, et on ne pourra plus jamais m'arracher des yeux ce que j'ai vu. Alors, vous comprenez, ces choses, ça change le regard. Et on devine ce que pourrait être l'homme, la femme. Si seulement un peu de tendresse passait. Et puis enfin, mon travail essentiel maintenant, c'est d'être prêtre d'accueil à Notre-Dame de Paris. La cathédrale de Paris, c'est une grande dame, vous savez, prestigieuse. Elle parle. Le langage des vieilles pierres est très pénétrant, et faire l'accueil à Notre-Dame de Paris, c'est très 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 impressionnant. C'est mon travail, c'est mon œuvre, c'est ma vie, de rencontrer des visages d'hommes, des visages de femmes. Ils ont tous les âges. Ils viennent de tous les horizons, géographiques, de tous les horizons politiques, économiques, sociaux, religieux. Ça va de la prostituée au diplomate. Ça va du truand en cavale jusqu'au four en plein délire. Mon rôle, c'est de m'enfouir. M'enfouir. Sans pouvoir et sans savoir. M'enfouir dans la détresse de l'autre. Et devenir avec lui qui il est. Et tous ces hommes, toutes ces femmes, par leur conscience, à la poursuite d'eux-mêmes et qui ne savent plus ce qu'ils cherchent, mais qui ne savent plus ce qu'ils fuient. Ils ne savent plus que c'est eux qu'ils cherchent. Ils ne savent plus que c'est eux qu'ils fuient. Alors, voyez-vous, j'ai appris vraiment, je crois, j'ai appris l'homme. Et j'ai appris Dieu. Et je crois qu'un chrétien, c'est celui qui rassemble en lui comme une espèce de grande ferveur et comme une espèce de grande douleur toute la passion de l'homme, toute la passion de Dieu. Je sais maintenant que sur chaque visage d'homme et de femme que je rencontre, il y a en surimpression le visage de Jésus. Et quand je me rassemble en moi-même pour tenter de contempler le visage, chaque fois, je bascule vers les visages de mes frères. Ce soir, je viens vous faire une conférence. J'avoue que je ne suis pas sûr que ce soit une conférence dans le sens où l'on entend ce mot. Ou alors je risque gravement de décevoir le genre littéraire. Car ce que je vais vous dire, je ne l'ai pas appris dans les livres, mais je l'ai lu sur des visages. Et je l'ai lu avec une telle intensité et une telle violence que, à deux reprises, j'ai été amené à écrire deux petits livres. Vous retrouverez dans mes propos de ce soir des choses que j'ai écrites. Parce qu'il faut dire et crier, et crier, et crier. Une conférence peut-être, moi je sais que j'apporte un petit témoignage. C'est le grand cri, le poème d'une vie. Je viens vous jeter mon cœur à la figure. Ce qui est très grave dans notre temps, ce qui est le plus grave dans notre temps, c'est que nous avons forgé au long des années une société démente, qui sécrète la solitude . Avez-vous noté qu'autrefois dans les escaliers on se rencontrait, on se parlait . Avez-vous noté qu'aujourd'hui dans les ascenseurs on ne se regarde pas, on ne se parle pas . Prenez le métro et vous verrez des êtres emmurés. Et sur tant de visages qui s'affaissent tout d'un coup parce qu'ils se sentent protégés par l'anonymat. On sait qu'il y a des centaines et des centaines de dieux autour de nous, mais il n'y a pas de regard. On est protégé par l'anonymat et les visages s'affaissent. Il n'y a plus à paraître puisqu'il n'y a pas de regard. Alors on devine sur chaque visage, je ne sais quel abcès de l'âme qui se nourrit de toutes nos aberrations. On a construit d'immenses buildings qui auraient pu être des communautés humaines chaleureuses et joyeuses. On a fait des collectivités. Nous sommes une société qui sécrète la solitude et l'indifférence. Il faut casser la solitude. Ne cherchez pas trop loin, vous savez. Je connais des femmes seules devant leur mari. Je connais des hommes seuls devant leurs femmes. Et je sais, des hommes et des femmes seuls devant eux-mêmes. Il y a ceux qui ne savent pas vivre. Je schématise, bien sûr. Mais en général, ce sont les nantis, les repus, les comblés. Il y a ceux qui ne peuvent pas vivre. Tous les opprimés. Opprimés par les structures politiques, structures économiques, sociales. Les affamés. Cela, je les connais bien, les torturés. Tous ceux-là qui n'ont jamais la parole ne peuvent pas vivre. Il y a ceux qui n'osent pas vivre parce qu'ils sont prisonniers, enlisés dans des tabous, des codes, des principes, des morales, des barèmes. Ils sont aliénés. Alors, au long des jours et des années, ils se sont résignés à survivre seuls. Quand il s'agit de vivre ensemble, je pense à cette femme qui me disait, les yeux pleins de larmes, je voudrais exister. Et croyez-moi, je la connais, c'est une femme comblée, adorée par son mari, adorée par ses trois enfants, une quarantaine d'années, riche, compte en banque, voiture, résidence secondaire, un très bel appartement parisien. Et elle dit, je voudrais exister. Mon mari aime sa femme, mes enfants aiment leur mère, mais moi, ce que je suis, moi en moi-même, qui l'a reconnu? Et là, vous savez, il n'y a pas d'argument. Là, il n'y a pas de logique. C'est le vertige. Je pense à cet autre qui me disait, parlant de son mari, je m'efforçais d'être tel qu'il me voulait et je ne me reconnaissais plus. Il n'y a plus de référence, vous comprenez. Elle disait, qu'importe d'être aimée comme la femme de son rêve, si son rêve ce n'est qu'une part de moi. Et devant ce cri-là, devant ce désarroi, il faut l'infinie tendresse et l'intensité du silence. Et l'on voit bien ici que s'aimer, c'est se reconnaître. Beaucoup plus que se connaître. Aimer, c'est être là. Aimer, c'est partir à la découverte d'un visage et se révéler l'un à l'autre, devenir moi, parce que tu es là. Devenir toi, parce que j'existe. Être soi, que faire de soi? Je vois ce jeune homme qui vient vers moi et qui me dit, j'ai un problème, je suis homosexuel. Et il a pris sa tête entre ses mains et s'est mis à pleurer devant moi. Je lui dis, mon petit, tant que c'est un problème, il n'y a pas d'espoir. Ça Sa détresse, ce n'est peut-être pas l'homosexualité, le sait-il même. Sa détresse, c'est la condamnation, l'index, la solitude, l'excommunication, la prison. Il est refusé. Il est verrouillé en lui-même. Il ne peut pas s'avouer aux autres. Alors, il ne peut même plus s'avouer à lui-même. Et il va passer toute sa vie à se débattre, écartelé entre ce qu'il est et qu'il ne peut pas être. Il va passer sa vie dans ce vertige et ces nuits inconnues dans les marges de la conscience où s'enracine toute sa douleur. Alors ici encore, croyez-moi, il faut des antennes d'insectes et des radars hautement sélectifs pour rejoindre de tels désarrois, tenter de le révéler à lui-même et lui démontrer sa richesse personnelle, sa beauté personnelle, et lui expliquer qu'un homme toujours, 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 et je m'y connais, un homme toujours est plus beau que son examen de conscience. Et lui révéler que Dieu nous aime tel que nous sommes et non pas tel que nous devons être. Que Dieu nous aime tel que nous sommes et encore moins tel que nous rêvons d'être. Et que le secret du devenir, c'est d'abord de s'accepter soi-même tel, en refusant de se rêver autre. Je revois cette jeune femme, droguée à mort. Elle faisait même partie d'une filière, elle passait la drogue. Hong Kong, Bangkok, Paris. Nous avions eu plusieurs rencontres et je l'avais aidée de mon mieux. Un soir, elle est arrivée, elle a posé un revolver sur la table entre nous. Et un revolver, vous savez, dans les mains d'une jeune femme, c'est hideux. Elle m'a dit, je viens te dire adieu, c'est fini. Je lui ai dit, tu vas faire une connerie. Le plus idiot, c'est que tu seras la seule à ne pas le savoir. Je lui ai dit, c'était beaucoup d'audace, mais je la connaissais. Si tu comptes sur moi pour te demander ton revolver et t'influencer pour que tu me le passes, c'est râpé. Ton revolver, tu partiras avec et tu en feras ce que tu voudras. Mais si tu veux me faire un beau cadeau, en passant le pont sur la Seine, jette-le par-dessus bord. Alors elle m'a expliqué, avec un souverain mépris sur elle-même, qu'à bout d'argent, et parce qu'il lui fallait encore de la drogue, elle s'était prostituée à Pigalle. Elle m'a dit, je ne suis plus rien. Je ne suis plus qu'une putain. Et puis, cette espèce de bondissement, vous savez. Je lui ai répondu, mais d'instinct, tu es vierge. Pas un de ceux qui est passé sur toi n'a eu qui tu es. Moi, je sais qui tu es. Elle a éclaté en sanglots comme une petite fille. Elle a repris son revolver, elle a retiré le chargeur et elle m'a offert le chargeur en cadeau. Et 15 jours plus tard, elle revenait me voir. Son visage déjà était changé. Elle s'est assise et elle m'a dit, je t'apporte un beau cadeau. Je dis quoi ? J'ai commencé la cure de désintoxication. Devenir soi, parce qu'il y avait l'autre. Je pense à cette petite, 30 ans, violée quand elle était petite fille. Elle vient me voir en ce moment même, régulièrement, hantée, harcelée, par une névrose, par le cauchemar, à jamais souillée. Elle ne touche rien, malade. Délivrez-moi, délivrez-moi. Et je lui dis, la seule issue, c'est d'assumer, c'est de revendiquer. Alors on pourra dépasser. Mais être à la fuite de soi, c'est se vouer à l'échec perpétuel. Je pense à ce petit prisonnier de la prison de Fresnes, car j'ai été aussi pendant un an aumônier à la prison de Fresnes. J'avais célébré l'Eucharistie, il m'avait suivi dans la sacristie. Il s'était jeté à genoux devant moi en plein délire, sanglotant, criant. Mon père était un ivrogne, ma mère était une putain, tous les deux étaient des voleurs, je suis un voleur, bénissez-moi, faites quelque chose. Ne pas être, c'est l'enfer. Je vous donne ces exemples, mes amis. J'en ai des milliers d'autres. Ne me dites pas que ce sont des cas limites. Vous savez, nous sommes toujours à la limite. Et en tout cas, les cas limites comme ceci, au moins nous renseignent sur nous-mêmes, car, voyez-vous, l'une des grandes découvertes que j'aurais faites, c'est celle-ci. Tout l'homme est dans tout homme, et dans tous les hommes. Tous ces grands solitaires et leurs plaies profondes et secrètes, tous ces gens qui hantent nos rues, hantés par la peur d'être, et qui n'osent pas se découvrir, et en même temps qui cherchent avidement une identité où ils pourraient peut-être reconnaître quelqu'un, et surtout être reconnu. Tous ces amours dont personne ne veut et qui cherchent le jour. Tous ces hommes, toutes ces femmes qui se fuient eux-mêmes et qui si souvent se réfugient dans le paraître, dans le savoir, dans le pouvoir et dans l'avoir. Je vous dis toutes ces choses et croyez-moi, c'est pour tenter de rejoindre le thème de cette conférence. Que faire de soi? C'est une question énorme. C'est dérisoire, vous comprenez, de répondre à cette question en une soirée. C'est la question de la vie. Que faire de soi? C'est toute la question de l'amour. Que faire de soi? C'est toute la question de la liberté. Et le piège, ici, ce serait de répondre au niveau de l'agir. Car si souvent on se lance dans l'action, et c'est l'alibi, et on s'enivre d'action, voilà qui m'évitera de me rencontrer moi-même. La seule réponse, la seule issue, c'est vrai. C'est la relation. Car l'homme est solitude, mais l'homme est relation. Tout le débat intérieur, c'est cette lutte entre la solitude intérieure et la volonté de rencontrer. Mais quel espoir pensez-vous avoir de rencontrer les autres, si l'on ne sait pas d'abord rencontrer soi-même. Donc la vérité, si l'on veut être honnête et lucide, la vérité, c'est que la question se pose au niveau de l'être, au niveau de qui je suis. Et il est impossible, je dis, qu'il est impossible de répondre à la question « que faire de soi ?» si l'on ne pose pas d'abord comme condition absolue et fondamentale et irréversible cette unique vérité de départ, accepter d'être qui je suis. Accepter d'aller vers mon miroir, à la rencontre de cet étranger qui me ressemble comme un frère. Accepter d'arracher tous les masques, mais méfiez-vous, méfiez-vous. On ramasse toujours les masques tombés. Accepter de me reconnaître, moi, tel que je suis, même si c'est décevant, même si c'est raté. Se refuser à soi-même cet aveu, c'est pour toujours manquer sa propre liberté. C'est renoncer à l'être et se résigner au paraître. On peut tenir quelques années dans le paraître, mais le jour où vient l'événement contraire, où il faut faire face, si je me suis résigné à paraître, si je n'ai jamais osé être, je m'écroule. Se refuser cet aveu de soi-même, c'est renoncer à l'audace de vivre, et c'est se résigner pour toujours à survivre. Dites-moi donc, à quel dépassement peut-on convoquer un homme s'il ne sait pas d'abord assumer lui-même? Et comment peut-il s'assumer lui-même s'il ne s'est pas vu et saisi lui-même? À quelle fidélité peut-il prétendre s'il n'est pas d'abord fidèle à lui-même? Et qu'est-ce que la fidélité à soi-même si l'on n'a jamais pris conscience de soi? Et c'est là que commence toute la liberté, j'ajoute. C'est là que commence toute sainteté. Dans la Bible, dans l'hébreu, le mot sauver, c'est libérer. Libérer, toujours, c'est créer. Donc, libérer toutes les parts de moi pour m'inventer, et m'inventer encore, et me réinventer. Je suis témoin tous les jours, qu'il arrive souvent que le jugement qu'un homme porte sur lui-même dissolve la volonté de se créer, de s'inventer. Dans la passion qui le déséquilibre, il pourrait si souvent, dans le vice même qui l'humilie, il pourrait découvrir des courants qui se cachent et qui, s'ils étaient captés, lui révéleraient des sources souterraines d'une grande richesse. Mais il s'est installé dans ses jugements sur lui-même, il s'est installé dans ses propres condamnations, dans ses culpabilités, dans ses mépris sur lui-même. Saint Jean écrit, si ton propre cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur et il sait tout. Il s'est interrogé devant la loi et la loi est tombée comme un couperet. Regardez bien autour de vous et vous verrez le pessimisme des gens presque toujours commence par un refus de soi. On se trouve moche, on ne s'aime pas, on ne se tolère pas. Alors, ne peut pas admettre que les autres soient différents de nous. Et on projette sur les autres notre propre regard sur nous-mêmes. Mais s'il s'interrogeait devant sa propre tendresse, il pourrait peut-être reconnaître dans tous ses refus, même dans son péché, il pourrait reconnaître dans sa blessure, dans ses ruptures, reconnaître des regrets, des espoirs, des nostalgies que les mots ne peuvent pas dire et qu'on ne peut même pas s'avouer à soi-même et qui souvent sont des tensions en attente. Croyez-moi, mon Dieu, c'est mon métier. Il n'y a pas que du mal dans le mal. Il n'y a pas que du bien dans le bien. Il y a des passions dont il faut capter la puissance. N'arrachez pas la mauvaise herbe, dit Jésus. Car si souvent ce que nous dénonçons et ce que nous condamnons en nous et chez les autres, comme le mal, si souvent, mes amis, c'est le bien blessé qui supplie, qui appelle, qui mendie sa part de joie, de réconciliation, de tendresse. Écoutez, c'est la définition même de la condition humaine, d'être limité, d'être démuni, d'être blessé. Alors est-on coupable d'être un homme? Est-on coupable d'être une femme? Je dis que le premier mouvement devant nos limites ne devrait jamais être l'accusation, mais l'acceptation très douce, très humble, sereine. Car la plupart du temps, vous savez, avant de se poser en termes de conscience et de morale, tout ce que nous sommes, même le pire, s'exprime d'abord en termes de nature et de vie. Alors, il faut se revendiquer. Soi. Tout entier. Sans condition. Sans restriction. Ombres et lumières. Douceur et colère. Rire et larmes, humiliation et fierté, revendiquer tout mon passé, revendiquer l'inavoué, revendiquer l'inavouable. Mon passé est à moi, mon passé c'est moi, c'est mon passé qui a façonné mon visage, que personne n'y touche. Ben voilà la liberté. C'est elle qui est au pupitre, les deux bras tendus sur l'orchestre, sur toutes les rumeurs de ma conscience, sur tous les remous de mon corps, sur tous les élans de mon cœur, sur tous les appels de ma vie, sur toutes les violences de ma sexualité. On ne vit pas en dépit de soi, jamais. Car la liberté, c'est d'abord ceci. Avec ce qu'on a fait de moi, réussir ma vie. Avec ce qu'on a fait de moi, même si c'est raté, réussir ma vie. Se reconnaître soi. Se revendiquer soi. S'accueillir et s'aimer soi. Être gentil avec soi-même. On nous a tellement appris à marcher à la cravache. être gentil avec soi-même. Dieu nous aime. Nous sommes un centre unique de tendresse. Pour les milliards de milliards d'hommes qui ont existé avant moi, et jusqu'aux milliards et milliards d'hommes qui existeront après moi, je suis moi tout seul, unique exemplaire de moi-même devant Dieu. Et Dieu est fou d'amour pour moi. Le péché essentiel, vous comprenez, devant ce Dieu-là, c'est l'inquiétude. S'accueillir, s'assumer tout entier, avec grande douceur. Car s'il n'y a pas la douceur, je ne m'accueille plus, je me subis. Et c'est un autre enfer. Alors tout est en place pour le devenir, pour l'invention de soi. Écoutez bien, s'il vous plaît. Je suis à Notre-Dame de Paris depuis 1968. Depuis 1968, j'ai vu défiler le monde entier à Notre-Dame. Je vous assure, c'est beau un homme. C'est beau une femme. C'est toujours, toujours beau. Je dis qu'il n'y a pas de préalable, il n'y a pas de condition. Jésus dit, viens, suis-moi. Il n'y a rien à faire avant. Il n'y a pas de condition à remplir. Tout l'évangile, c'est ça. Viens, suis-moi. Où habites-tu, Seigneur? Venez, vous verrez. Et Jésus monta dans la barque et il dit à Pierre, prends le large. Je ne veux pas vous scandaliser, mes amis, mais j'ai appris à me méfier de la perfection. Allons jusqu'au bout de ma pensée. Je déteste la perfection. J'ai choisi la sainteté. C'est pas pareil. La perfection, c'est moi qui la fabrique pour moi. La sainteté, c'est Dieu qui me la donne, tout de suite. La perfection, c'est au bout du chemin, et du chemin que je me suis tracé moi-même, pour moi-même. La sainteté, c'est maintenant. La perfection, elle est humiliée par son péché. Elle ne supporte pas son péché. La sainteté n'est jamais humiliée, elle est humble. Car on est humilié que lorsqu'on se voulait quelqu'un, que lorsqu'on se croyait quelqu'un. On est humble lorsqu'on accepte d'être un pauvre. Bienheureux les pauvres. Mais on a mis tant de préalables au droit de vivre, au droit d'exister, au droit d'être soi-même. Des préalables psychologiques, religieux, moraux, tout ce que vous voudrez. Alors on dit, quand je serai débarrassé de cette mauvaise habitude, alors je pourrai être moi-même. Quand j'aurai mon moral libéré de ce vice, alors je pourrai vivre. C'est l'inverse. Commence par vivre ta vie et tu verras se dissoudre tout ce qui t'attache. Commence par vivre ta tendresse et tu verras ton fils se dissoudre de lui-même. Vous y croyez-vous aux bonnes résolutions? Moi, c'est fini depuis longtemps.
Alors vous comprenez, il y a tellement de préalables, tellement de conditions au petit bonheur simple d'être soi, que la plupart des gens, ils le présentent, ils le consentent, ils se réduisent à vivre avec des fragments d'eux-mêmes, ce qui est présentable, ce qui est conforme, ce qui est selon les normes, ce qui est selon la loi. Et ça, c'est l'attitude du pharisien, s'il vous plaît. Il ne présente au temple que le meilleur. Et le reste, cette part de soi dont ils sont moins fiers, et qui les humilie, ou simplement cette part d'eux-mêmes dont ils sont moins sûrs, elle est verrouillée pour toujours, dans les marges de la conscience. C'est la part de soi-même qu'on refuse et qui ne verra jamais le jour. La vieille blesse secrète qui fermente et qui suppure dans les replis de la conscience. On apprend à vivre humilié par soi-même. Et l'on s'étonne que le pouvoir d'aimer s'étouffe, s'étiole. Si l'on avait assez de simplicité, si l'on avait assez de courage,